Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, comme tous les mardis, on ira voir ce qui se passe en France et on s'intéressera en particulier au gouvernement qui envisage de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Jean-Noël Ducasse nous fera lui un point complet sur l'actualité sportive. Et comme cette semaine c'est la NAIDOC Week, pour l'occasion nous vous proposons d'écouter une interview de l'acteur aborigène Aaron Pedersen qui joue le rôle principal dans l'excellent film Mystery Road. L'interview concerne également le réalisateur de ce film. Et tout de suite, c'est l'heure du journal. Allez, on y va. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 6 juillet 2021. 18 nouveaux cas de coronavirus détectés en Nouvelle-Galles du Sud. Gladys Berger-Client, pour l'instant, ne se prononce pas sur un potentiel prolongement du confinement en cours à Sydney. La communauté économique australienne demande au gouvernement d'être plus précis après qu'il a annoncé vendredi dernier un plan de sortie de pandémie, mais sans donner aucun détail concernant les objectifs à atteindre pour arriver au bout de la situation actuelle. Enfin, au Nigeria, un nouvel enlèvement de masse, 133 élèves d'un lycée sont portés disparus. Et je vous le disais dans les titres, 18 nouveaux cas de Covid ont été recensés aujourd'hui à Sydney, mais la seule question qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir si le confinement sera levé comme prévu samedi ou bien s'il sera prolongé. Eh bien, cette question, pour l'instant, elle est restée sans réponse. Gladys Berger-Client estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Elle pourrait en revanche faire une annonce demain. Et d'ici là, elle appelle la population, en particulier les jeunes, à continuer à se faire tester.
Overnight, New South Wales recorded 18 cases of community transmission. 11 of those cases were people that were completely in isolation. 5 of those cases were people that were partially in isolation and 2 people, unfortunately, were infectious in the community.
La médecin-chef de l'État, Kerry Chant, a tenu pour sa part à saluer plus particulièrement ceux qui vivent dans l'ouest de Sydney. Elle a également rappelé qu'il était très important que ceux qui ont déjà reçu une première dose de vaccin qu'ils prennent rendez-vous pour recevoir la deuxième.
The areas that I'd like to focus on at the moment is our Fairfield and Bosley Park communities. I'd like to see incredibly high testing rates in those communities as we try to identify any unrecognized chains of transmission. For those that have had their first dose and it's coming up time for your second dose of the AstraZeneca vaccine, make sure you have an appointment. Against the Delta strain, 2 doses of both Pfizer or AstraZeneca are very effective at preventing hospitalization and death.
On passe maintenant au Queensland. Un seul nouveau cas de Covid a été recensé aujourd'hui, un cas que les autorités ont en outre pu assez rapidement relier à un précédent cluster. Écoutez la dirigeante de l'État, Anastasia Palaszczuk.
This person is connected to the Alpha cluster. She is a close contact of the man that we reported yesterday from Cinnamon Park and she lives at Kangaroo Point. And she's in home quarantine at the moment.
La médecin en chef de l'État, Janet Young, a pour sa part précisé que cette personne contaminée est une étudiante infirmière et qu'elle est asymptomatique.
So asymptomatic, which means that we can't identify the start of her infectious period. So we've gone back, so that's the 26th of June. But I think it's unlikely that she was infectious back then, but to be absolutely sure, we've gone back that far. Now, she is a student nurse. We believe she hadn't been on campus since that time.
Dans le reste de l'Australie, le Victoria reste sur une très bonne série avec un 6e jour consécutif sans aucun nouveau cas. Les autorités envisagent d'ailleurs un possible allègement des restrictions, notamment en ce qui concerne le port du masque, mais aussi la capacité d'accueil des établissements recevant du public. En Australie-Occidentale, en revanche, les autorités, à qui décidément il en faut peu pour commencer à paniquer, s'inquiète de l'arrivée récente d'un cargo de fret à bord duquel se trouvait un membre d'équipage porteur du coronavirus. Cet homme est actuellement hospitalisé à Perth. Et puis quelques jours après l'annonce d'un plan de sortie de pandémie annoncé par le gouvernement, qui s'est caractérisé par une absence totale de précision, la communauté économique australienne appelle justement à plus de clarté, en particulier à propos des objectifs à atteindre en termes de vaccination pour passer d'une étape à l'autre. Dans le cadre de ce plan, chaque nouvelle phase devant se traduire par un allègement des restrictions mises en place. Ce plan, qui est entièrement conditionné par le taux de vaccination au sein de la population, ne rassure pas, en tout cas pas en l'état, Innes Wilcox de l'Australian Industry Group. Il appelle le gouvernement à définir avec beaucoup de soin les objectifs à atteindre.
You know, we need to have a realistic and achievable target, and it's probably best if we just don't have a numerical target, because that will just mean that we'll be held up for even longer by those who are vaccine hesitant or vaccine resistant.
Au Nigeria, 133 lycéens de l'état de Kaduna sont portés disparus et ils ont été vraisemblablement kidnappés. Leur établissement scolaire a été attaqué la veille par des hommes armés, un assaut durant lequel plusieurs personnes ont également été blessées. Compte rendu avec Victor Moria de RFI.
C'est vers 2h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, que plusieurs hommes armés ont escaladé les grilles du pensionnat du lycée Baptiste Bethel. 180 lycéens, âgés de 12 à 18 ans, y étaient scolarisés et étaient en pleine période d'examen. Une fois à l'intérieur, les ravisseurs ont tiré un peu partout et rassemblé les enfants et le personnel dans la cour de l'établissement. Il y a eu ensuite un échange de tirs avec des membres de la sécurité chargés de protéger l'établissement, mais plusieurs d'entre eux ont été blessés et les assaillants ont pu partir avec la majorité des élèves. Selon le vice-président de l'école que nous avons pu joindre, 26 élèves ont alors profité de la confusion pour s'échapper. Il affirme donc que ce sont en tout 133 jeunes adolescents, garçons et filles confondus, qui ont disparu. Les attaques de ce type se multiplient au Nigeria ces derniers mois. Plus de 1000 enfants ont été enlevés depuis le mois de décembre dernier. La plupart du temps, l'objectif est d'obtenir une rançon sous la menace d'exécuter les étudiants capturés. Mais le gouverneur de l'état de Kaduna est connu pour refuser tout type de transaction avec les bandits qui opèrent ces enlèvements.
Le président américain Joe Biden avait promis que 70% de la population américaine serait vaccinée d'ici au 4 juillet, jour de la fête nationale. Un objectif manqué, mais de peu, puisque actuellement 66,8% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Et si on regarde dans le détail, c'est en particulier dans les États du Sud que la campagne stagne. Pour RFI, les explications de Christophe Paget.
La solution, c'est la vaccination, disait encore ce dimanche le gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, implorant ses administrés de se faire vacciner. Son État, mais aussi l'Alabama, la Louisiane ou encore le Mississippi, sont en queue de peloton, avec pour la plupart moins de 35% de la population adulte complètement vaccinée. Et les sondages montrent que cette méfiance est conduite par les républicains. Parmi la population rurale, blanche, conservatrice, certains sont convaincus que le vaccin est plus dangereux que le Covid. L'ancien président Donald Trump n'était jamais allé jusque-là, mais son soutien à la vaccination avait été pour le moins erratique et son dénigrement des autorités sanitaires constant. Dans la minorité noire, les théories complotistes sont aussi bien ancrées, avec par exemple une croyance que le vaccin viserait à stériliser les hommes noirs, une théorie fantaisiste qui s'explique par un réel passé de discrimination sanitaire. Dans la communauté latino, le New York Times parle plutôt de la peur de tomber sur des agents de l'immigration sur les sites de vaccination. Le journal évoque aussi l'impossibilité pour certains d'obtenir un congé payé pour aller se faire vacciner. Plus largement, sur tout le territoire, les jeunes Américains sont les plus à la traîne. Moins de la moitié des 18-24 ans ont reçu au moins une dose.
Pour rester sur le sujet des vaccins, une autre nouvelle peu rassurante venant cette fois d'Israël, le pays le plus vacciné au monde. Depuis l'apparition du variant Delta, les autorités locales constatent une chute assez nette de l'efficacité de ce vaccin, donc Pfizer, alors que ce taux d'efficacité justement était de plus de 95% au mois de février. Sa capacité à empêcher une infection est désormais estimée à environ 64%. Le ministère israélien de la Santé souligne néanmoins que le vaccin a permis d'éviter le développement de maladies sévères, mais aussi d'éviter des hospitalisations dans 93% des cas. Et puis, dans le reste de l'actualité, la société informatique américaine Kaseya se débat toujours contre une attaque informatique de très grande ampleur. L'un des clients de cette société, une chaîne de 800 magasins se trouvant en Suède, est toujours incapable d'ouvrir ses portes à leurs clients, et ce, car l'ensemble des caisses enregistreuses sont paralysées par ce virus. Pour lever ce piratage, les hackers réclament pour leur part une rançon d'un montant de 70 millions de dollars américains. On fait le point avec Pauline Glaise pour RFI.
Le groupe a réclamé 70 millions de dollars en bitcoin, soit 59 millions d'euros pour restituer les données. Une information partiellement confirmée par Kaseya, l'un de ses responsables a assuré être au courant de la requête sans donner plus de précision. Les hackers promettent en échange de diffuser publiquement un décrypteur valable pour les fichiers de toutes les victimes afin que tout le monde puisse se remettre de l'attaque en moins d'une heure après paiement de la rançon. Le nombre précis de ces victimes n'a pas été dévoilé. Kaseya a assuré vendredi que moins de 40 de ses clients avaient été touchés, mais ces derniers fournissent eux-mêmes des services à d'autres sociétés. Plus de 1000 entreprises pourraient avoir été affectées selon la société de sécurité informatique Untrace Labs. L'ampleur est telle, en tout cas, que le FBI a prévenu qu'il ne pourrait pas répondre à toutes les victimes individuellement. Le Bureau fédéral d'investigation les encourage malgré tout à faire un signalement.
En France, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, va être convoqué le 16 juillet prochain par la Cour de justice de la République en vue d'une mise en examen. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. À Paris, les explications de Laura Martel, RFI.
L'enquête porte sur des décisions prises par Éric Dupond-Moretti en tant que ministre dans deux affaires dans lesquelles il était intervenu en qualité d'avocat avant d'entrer au gouvernement et qui pourraient relever du conflit d'intérêts. La première est la décision du ministre, en septembre 2020, soit à peine plus de deux mois après sa nomination, de déclencher des poursuites administratives à l'encontre de trois magistrats du PNF, le parquet national financier. Ces magistrats, dans le cadre d'une enquête préliminaire liée à l'affaire dite des écoutes, impliquant notamment Nicolas Sarkozy, avaient ordonné d'éplucher les fadettes, c'est-à-dire les relevés téléphoniques de plusieurs avocats, dont Éric Dupond-Moretti. Le ténor du barreau avait déposé une plainte contre le PNF en juillet 2020 pour violation de la vie privée, avant de la retirer une fois nommée. La seconde décision incriminée concerne aussi une enquête administrative demandée en octobre dernier par le ministre à l'Inspection générale de la Justice à l'encontre d'un ex-juge d'instruction de Monaco. Avant de devenir garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti avait vivement critiqué ses méthodes, notamment parce que le magistrat s'était exprimé à la télévision sur une enquête visant un de ses clients. Hier, dans le journal du dimanche, Éric Dupond-Moretti s'est dit extrêmement serein face à cette procédure, tout en dénonçant une manœuvre des syndicats plaignants visant, selon lui, à obtenir un nouveau garde des Sceaux.
Et pour finir ce bulletin d'information, un point rapide, comme toujours, sur la météo du jour en Australie. 19 degrés à Perth, où il y a des averses aujourd'hui, 15 degrés à Adélaïde, 13 degrés à Melbourne. Du soleil, mais un temps plutôt frais aujourd'hui à Sydney, où le thermomètre affiche 16 degrés, 20 degrés à Brisbane, 27 degrés à Cairns et jusqu'à 31 degrés aujourd'hui à Darwin. Et la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de la très belle Mayra Andrade sur ce morceau qui s'intitule « Comme s'il en pleuvait ». Allez, maintenant, on va retrouver Jean-Noël Ducasse pour faire le point sur les actualités sportives.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le Tour de France, hier jour de repos, et dimanche c'est l'Australien Ben O'Connor qui a remporté la 9e étape et il est deuxième au classement général. Précision de Eric Chorin pour Radio France Internationale.
Folle journée de Ben O'Connor qui s'est achevée par la victoire du jeune coureur australien dans la station de Tigne après une nouvelle journée marquée par les offensives au long cours. Ils sont une quarantaine à prendre la tangente de moins en moins au fil des 5 ascensions du jour, dont celle du col de Pré classé hors catégorie avec le cornet de Roseland enchaîné. Nairo Quintana en profite pour s'emparer du maillot à poids de meilleur grimpeur et au pied de la dernière ascension vers Tigne, ils ne sont plus que 3. Quintana, Sergio Higuita et Ben O'Connor qui déposent les deux Colombiens l'un après l'autre pour s'offrir un bon numéro en solo de 17 km jusqu'à l'arrivée. Il passe la ligne 5 minutes devant son premier poursuivant, l'Italien Mattia Cattaneo, et 6 minutes devant Tadej Pogacar. À 25 ans, un an après son premier succès sur le Tour d'Italie, le coureur de l'équipe française, âgé de R Citroën, remporte donc sa première victoire sur le Tour, un succès doublé de la deuxième place du classement général à 2 minutes de Tadej Pogacar. O'Connor a même été un temps le virtuel maillot jaune de ce Tour, mais le Slovène en avait encore sous la pédale aujourd'hui après avoir assommé la course la veille au Grand Bornand, suffisamment en tout cas pour attaquer à 4 km de l'arrivée et prendre 30 secondes de plus à ses rivaux, tous au-delà des 5 minutes, sauf un O'Connor en or, son directeur sportif Didier Janel.
Beaucoup d'émotions, hein. Ça reste le Tour de France, la course la plus grande course au monde. Ben nous a offert une étape d'excellence, j'ai envie de dire, l'étape de guerrier devant du début à la fin. Voilà, il a montré qu'il avait des ressources encore dans le final pour aller décrocher cette très belle victoire en solitaire. Voilà, je pense qu'il remonte au classement général, même s'il fera le mieux qu'il peut sur ce domaine-là. L'objectif de l'équipe, c'était de gagner une étape. On a déjà rempli une case. On espère en mettre d'autres, mais voilà, c'est un beau soulagement et une belle, très belle victoire. Un homme très fort de Ben O'Connor aujourd'hui.
Didier Janel au micro de Frédéric Suto. Ben O'Connor, très fort, qui passe donc de la 14e à la 2e place du général. Pas son premier objectif, nous dit Didier Janel, mais il a terminé 20e du Giro l'an passé et 8e du Critérium du Dauphiné récemment. Alors, avec plus de 3 minutes d'avance sur la meute de ses poursuivants, 3 minutes 17 sur le premier d'entre eux, le Colombien Rigoberto Urán, l'idée d'un podium à Paris pourrait faire son chemin.
Primož Roglič et Mathieu Van Der Poel ont arrêté le Tour de France. Écoutez Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, qui va se concentrer maintenant sur les JO de Tokyo.
Oui, on a pris la décision avec l'équipe ce matin de ne pas prendre le départ. Et c'était pas une décision facile, mais les Jeux Olympiques, c'est déjà un rêve de moi pendant 4 ans et ouais, je pense que je vais pas avoir aucun regret. C'est une autre discipline quand même et j'ai besoin un peu de temps pour ajuster encore et je veux pas avoir des regrets après les Jeux Olympiques. Ouais, c'est incroyable, c'était mon premier grand tour. On gagne 2 étapes avec l'équipe, donc j'ai porté le maillot jaune pendant quelques journées, c'était juste incroyable.
On passe au foot Euro, l'Euro, et bien la première demi-finale, c'est ce mardi entre l'Espagne et l'Italie. Un petit aperçu avec Antoine Grenier pour RFI.
Un classique moderne, si vous me pardonnez cet oxymore. Depuis 2008, toutes les éditions de l'Euro ont eu leur Espagne-Italie. C'était même la finale de l'Euro 2012 avec à la clé un succès espagnol pour couronner la génération dorée des Xavi, Iniesta, championne du monde 2010 et double championne d'Europe. Les Italiens avaient pris leur revanche en 2016 en 8e de finale cette fois. Et puis 5 ans plus tard, les joueurs de Roberto Mancini s'avancent en favoris. Un peu inattendu hein, de cette rencontre. Personne n'aurait parié sur une Italie aussi impressionnante, mais clairement, en sortant la Belgique, la Squadra Azzurra, qui n'a plus perdu depuis 32 rencontres maintenant, a acquis un statut, peut-être pas de grand favori de l'Euro, mais en tout cas d'équipe que l'on attend désormais. À voir comment les Italiens vont gérer la perte de Leonardo Spinazzola, le milieu de terrain, victime contre les Belges d'une rupture du tendon d'Achille. Euro terminé pour lui et quand on voit l'importance qu'il avait, le remplacer ça ne sera pas simple. L'Espagne, elle a eu du mal à chaque sortie face à la Suède et la Pologne en phase de groupe et puis en 8e contre la Croatie alors que les Espagnols menaient 3-1 à une dizaine de minutes de la fin, ils se sont fait rejoindre à 3-3. Alors certes, ils se sont imposés 5-3 en prolongation dans un match complètement fou, mais dans cette équipe d'Espagne, il y a des difficultés défensives qui ont été mises en évidence présidence, à nouveau en quart de finale contre la Suisse. Bref, une Espagne pleine de doutes, mais toujours debout, donc à ne pas sous-estimer, d'autant que les échecs de ces dernières années aux Mondiaux 2014 et 2018 et même à l'Euro 2016 sont encore frais dans les mémoires et sont aussi à l'origine d'un sentiment de revanche chez les Espagnols.
Et demain, mercredi, l'Angleterre jouera le Danemark au Wembley Stadium. Tennis, Wimbledon, huitième de finale hier, quelques résultats. Ça passe pour les Australiennes Ash Barty en deux manches, pour Alia Tomljanovic en deux manches, et Once Jabeur, la Tunisienne, qui élimine Swiatek, la Polonaise, en trois manches. Once Jabeur, la première joueuse arabe à se qualifier pour un quart à Wimbledon, son deuxième en Grand Chelem après l'Open d'Australie en 2020. Chez les messieurs, eh bien, Djokovic se balade tranquillement sur le gazon en trois manches contre Garin. Victoire de Federer également en trois manches contre Sonego. Zverev est éliminé par Ogier Aliassim. On passe à la Formule 1, le Grand Prix d'Autriche dimanche avec Max Verstappen, le Néerlandais, qui l'a emporté pour sa troisième victoire de suite et qui garde la première place aussi au classement des pilotes. Le Finlandais Valtteri Bottas et le Britannique Lando Norris ont complété le podium devant Lewis Hamilton, le Britannique, qui est arrivé quatrième pour ce Grand Prix d'Autriche. Les JO de Tokyo débuteront le 23 juillet prochain et l'équipe australienne comprend 254 femmes et 218 hommes avec 16 athlètes aborigènes. Les Australiens vont prendre part dans 33 disciplines à Tokyo, dont les 4 nouveaux sports, le breakdance, l'escalade, la planche à roulettes, le skateboard et le surf. L'ancien olympien Kyle Bernard van der Kuip des terres Wormy et Yuin accueilli la nouvelle équipe. On l'écoute.
I think it's exciting to see the team announced and to see 16 Indigenous athletes, which is a huge highlight for me and I think for the country and a real credit to the AOC.
Rugby, le match d'ouverture de la tournée du 15 de France en Australie, ce sera demain à Brisbane, demain 7 juillet, c'est au Suncorp Stadium. Ensuite, le 15 de France jouera le 13 juillet au AAMI Park de Melbourne et le 17 juillet au Suncorp Stadium à Brisbane à nouveau. Et puis Cléa Broadhurst, journaliste RFI, est déjà sur place à Tokyo. Elle raconte les procédures de la quarantaine à l'hôtel. Elle est avec Tom Rossi pour RFI.
Cléa, les conditions pour partir étaient très strictes et précises évidemment.
Oui, de nombreux tests PCR, bataillons de papier pour l'arrivée en douceur au Japon, le tout pour faire 15 jours de quarantaine, même si l'on est vacciné à 100%. Mais pour les Japonais, dont seuls 10% d'entre eux le sont à double dose, il s'agit de minimiser tout risque de contamination et d'explosion de cas Covid dans le pays. Première crainte, lorsqu'il y a 10 jours, des athlètes ougandais ont été placés en quarantaine car testés positifs au Covid à leur arrivée à Tokyo alors qu'ils avaient été complètement vaccinés. Et aujourd'hui, un rameur serbe a été testé positif également, son équipe mise en quarantaine d'office. Alors que les choses ont changé à l'aéroport, à présent, deux files accueillent les voyageurs, dont une spécialement dédiée à tous ceux qui débarquent pour les Jeux. Et on suit le chemin pour montrer nos papiers à une demi-douzaine de bureaux différents avant de faire un test salivaire pour pouvoir passer l'immigration.
Et sans résultat négatif, on ne peut pas quitter l'aéroport.
Exactement, on attend une quarantaine de minutes, puis on est mené dans nos hôtels de quarantaine, sélectionnés par l'État, je précise, et c'est à ce moment-là que l'on s'aperçoit que la rigueur n'est pas tout à fait au rendez-vous. La quarantaine exigée de 3 jours enfermée dans sa chambre requiert que l'on nous apporte nos repas à la porte et que l'on fasse un test tous les jours lors de ce confinement strict, sauf que certains hôtels, pourtant sur la liste étatique, n'ont pas de restaurant, pas de service à la chambre et pas de quoi se faire tester. C'est le cas de l'hôtel où je me trouve. On a donc l'autorisation de sortir 15 minutes pour se rendre dans un magasin d'appoint à côté pour les repas. Sauf que la quarantaine exigeait que l'on ne se rende pas dans les magasins publics. Quarantaine à laquelle on déroge également car par exemple, pour se faire tester, il faut se rendre au centre de presse international.
Et donc les 15 prochains jours, a priori, ils se dérouleront entre le centre de presse et votre hôtel alors?
Oui.
Et voilà pour le journal des sports de ce mardi.
C'est bon ça, le morceau qu'on vient d'écouter, il s'appelle « Pas personnel » et il est interprété par un garçon qui s'appelle Monsieur Giscard, mais rien à voir avec l'ancien président. Allez, maintenant, on va retrouver Émile Matasso et Jean-Noël Ducasse, une fois encore, pour faire le point sur les actualités de la semaine en France. Il est notamment question du projet du gouvernement de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant.
Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à tous.
À la une, le gouvernement qui envisage de rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour les soignants.
Oui, c'est là l'un des paradoxes. Hein. Si les Français, dans leur ensemble, ont fini par adhérer très massivement à la vaccination, 33 millions de personnes ont reçu au moins une dose, et parmi elles, 21 millions ont reçu leurs deux doses de vaccin. Mais parmi les personnes les plus exposées de par leur travail, le personnel soignant, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, là, il y a toujours une forte réticence à se faire vacciner. Les soignants ont eu la possibilité de se faire vacciner en priorité, mais aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, 57% seulement des personnes travaillant en maison de retraite et un peu plus, un peu mieux, 64% dans les hôpitaux ne se sont toujours pas fait vacciner. Et ces chiffres, ils étonnent, ils agacent les autorités avec un discours de prévention qui est, bien, pour l'ensemble de la population, qu'il faut se faire vacciner. Mais les soignants, médecins, infirmières, aides-soignants qui rechignent, eux, à le faire. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a haussé le ton ces derniers jours. Hein, il brandit la menace, si d'ici le mois de septembre, 80% au moins des soignants ne sont pas vaccinés, a-t-il expliqué, eh bien, à défaut, le gouvernement ouvrira la voie d'une obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Il faut dire qu'un soignant qui n'est pas vacciné, bien déjà, il se met lui-même en danger, en risquant d'être contaminé par le Covid, mais il met aussi les patients en danger. Le risque de contaminer les autres, même des personnes ayant déjà été vaccinées, notamment les plus âgés, les plus fragiles dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Et le ministre de la Santé, eh bien, il a précisé sa pensée. « Je ne veux pas incriminer les soignants », dit Olivier Véran. « Leur travail est compliqué, ils en ont ras-le-bol, hein, ce sont ses mots, ils ont eu une année très difficile, mais la seule manière de s'en sortir, c'est de protéger les plus fragiles d'entre nous. »
Est-ce que l'on sait pourquoi il y a tant de réticence à se faire vacciner chez les soignants ?
Eh bien, pas directement, mais vous savez, depuis un an et demi, les soignants, ils sont en première ligne, ils ont pris plus que quiconque de plein fouet cette épidémie, avec les malades, les décès à gérer à l'hôpital en soins intensifs, et ce risque d'être contaminé soi-même au contact des malades. Mais le rapport entre le gouvernement et l'hôpital, il a toujours été très tendu. Si l'on remonte en arrière, hein, les politiques ont décidé, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique, droite ou gauche confondue, ils ont décidé ces dernières décennies de fermer des lits, de ne pas payer les heures supplémentaires, de ne pas renforcer les effectifs, etc. etc. C'est ce qui se passe depuis des années. Et là, quand l'épidémie Covid est arrivée, même s'il n'y avait plus de masques, parce que les gouvernants avaient estimé qu'ils n'avaient pas besoin de renouveler les stocks, même si les moyens manquaient, eh bien, on a demandé du jour au lendemain aux soignants de faire des miracles, de sauver des vies avec parfois les moyens du bord. Et donc, aujourd'hui, de s'entendre dire qu'on est un mauvais soignant si on ne se fait pas vacciner, d'entendre le ministre qui vous fait la leçon, qui vous tape sur les doigts, eh bien, au final, cela exacerbe encore plus le ressenti d'un certain nombre de personnes qui travaillent à l'hôpital, notamment les plus jeunes, qui estiment, eh bien, qu'il n'y a pas urgence, peut-être, à se faire vacciner. Et donc, même inconsciemment, c'est peut-être un acte de résistance vis-à-vis du gouvernement. En tout cas, l'exécutif en a bien conscience. Lui, il veut préparer un texte législatif pour reprendre la main, un texte qui pourrait être activé à la rentrée pour rendre obligatoire cette vaccination contre le Covid pour les soignants. Alors, dans les mots, c'est assez compliqué de rendre le vaccin obligatoire, hein, mais on pourrait obliger un soignant, par exemple, à changer de poste tant qu'il n'accepte pas de se faire vacciner contre le Covid.
D'ailleurs, où en est l'épidémie en France en ce mois de juillet ?
Bien, l'épidémie, elle est sous contrôle. Un peu plus de 2000 nouveaux cas par jour en moyenne en ce moment, et un nombre de décès qui s'est élevé ces derniers jours à une trentaine quotidiens. L'épidémie est sous contrôle, mais, et c'est là le rôle des autorités sanitaires et du gouvernement, en haut lieu, on redoute une nouvelle vague, et ces derniers jours, même si cela ne serait percute pas encore dans le nombre d'hospitalisations, le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse. Et ce qui inquiète surtout, c'est la progression du variant Delta, ce variant qui petit à petit est en train de prendre le dessus. Il se transmet, on le sait, très facilement, très vite. Et si on parlait tout à l'heure des soignants, au-delà, on arrive en France à une sorte de plafond en matière de vaccination. On le disait, 33 millions de personnes ont reçu une dose, c'est bien, mais la population adulte de la France, elle s'élève à 50 millions. Et au total, avec les mineurs, il y a 66 millions de personnes. Donc on est encore très très loin de l'immunité collective que pourrait amener la vaccination. Aujourd'hui, il n'y a pourtant plus aucun obstacle pour se faire vacciner. On peut facilement trouver un rendez-vous. La vaccination, elle est ouverte à tout le monde, aux mineurs également. Mais les Français, eh bien, ils ne se bousculent plus chez le médecin ou dans les centres de vaccination. On est loin des 500 000 vaccinations par jour d'il y a quelques semaines. Les gens ont la tête à leurs vacances, à l'été, juillet, août. Et puis, comme les chiffres de l'épidémie sont meilleurs, ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, soit parce qu'ils n'ont pas pris le temps de le faire, soit parce qu'ils n'avaient pas obtenu de rendez-vous quand ils souhaitaient le faire, ou simplement parce qu'ils se positionnent du côté, entre guillemets, des anti-vaccins, tous ces gens-là se disent finalement qu'ils ont bien fait, puisque les chiffres diminuent et qu'ils n'ont aucune raison de se précipiter aujourd'hui. Bref, cette situation, elle inquiète, oui, du côté de l'Élysée, de Matignon, Emmanuel Macron, le président de la République, le Premier ministre, Jean Castex, le gouvernement, car on craint une nouvelle vague, une quatrième vague qui pourrait survenir à la rentrée de septembre.
Autre actualité, les Républicains qui vont déterminer ce mardi les règles du jeu pour savoir qui sera leur candidat à l'élection présidentielle de 2022.
Oui, tous les ténors du parti vont se retrouver ce mardi à Paris, au siège du parti Les Républicains. Ce parti qui a changé de nom plusieurs fois, c'était l'UMP auparavant, on a eu le RPR également. C'est le parti en tout cas de la droite traditionnelle qui a mené en son temps Jacques Chirac à la tête du pays, puis Nicolas Sarkozy. En 2017, dernière présidentielle, le candidat du parti Les Républicains, c'était François Fillon. Il avait essuyé un véritable camouflet devancé par Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'étaient retrouvés au deuxième tour. Et donc, le parti Les Républicains ne veut surtout pas revivre cette mésaventure. Et depuis 10 jours, fort des résultats des élections régionales, on se met à croire à des jours meilleurs. La droite, en effet, est sortie renforcée de ce scrutin régional, avec notamment le trio Valérie Pécresse, réélu à la tête de l'Île-de-France, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes et Xavier Bertrand dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Le problème, c'est que ces trois-là, ils se verraient bien candidat à la présidentielle de l'an prochain, sans parler d'autres candidats potentiels pour la droite, comme François Baroin ou Michel Barnier, qui a négocié le Brexit avec les Anglais au nom de l'Union européenne. Tout ce petit monde a donc convenu de se retrouver pour discuter. Faut-il organiser une primaire entre tous les candidats potentiels, ou faut-il laisser les choses se faire, attendre encore quelques semaines, quelques mois, et se rallier à celui qui se dégagera de la mêlée? Les avis sont partagés. Il faut dire qu'à droite comme à gauche, on l'a vu, l'organisation d'une primaire peut s'avérer contre-productive et vous affaiblir avec les perdants de la primaire qui finalement traînent des pieds ensuite pour soutenir le candidat désigné à la présidentielle. On devrait en savoir en tout cas un peu plus ce mardi, même si Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a déjà affirmé qu'il ne prendrait pas part à cette primaire, qu'il sera, quoi qu'il arrive, candidat, lui, à la présidentielle de 2022.
Merci, Émile, pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'est qui, tu ne vas pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi la pépite. C'est qui, tu ne vas pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi la pépite. C'est qui.
Et cette voix, vous l'avez sans doute reconnue, c'est celle de Aya Nakamura en featuring sur ce morceau du DJ Major Lazer. Le morceau en question s'appelle « C'est cuit ». Vous êtes sur Radio SBS, il est 13h et quasiment 48 minutes. Et pour la dernière partie de notre émission, nous allons vous parler d'un excellent film australien sorti il y a maintenant quelques années. Il s'appelle « Mystery Road », c'est un genre de thriller policier du bush. Et pour en discuter, eh bien, nous avons avec nous l'acteur principal, Aaron Pedersen, ainsi que le réalisateur du film, Ivan Sven.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Ce programme radio est diffusé depuis les studios SBS sur les terres non cédées de peuples Bunurong, Bunurong et Wurundjeri. SBS French reconnaît et respecte les gardiens traditionnels de toutes les terres et les anciens passés, présents et émergents. Nous reconnaissons que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres entretiennent un lien spirituel et culturel unique, ininterrompu et fort avec la terre et les eaux et pratiquent une langue, des traditions et une culture qui enrichisse notre vie et notre identité en tant que nation.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Ivan Sen and Aaron Pedersen, welcome to both of you.
Thank you.
Thank you. Ivan, you are the director of Mystery Road. Tell us about that film.
Mystery Road, it's a genre film. It's about an Aboriginal detective who returns to his outback town to solve the crime. The crime involves the murder of a young Indigenous girl who's found out of town under the highway. So he has to work within the suspicions of the local community, who see him as a bit of a traitor, and at the same time work within the establishment, the police force, which has a more than a hint of racism and corruption about it.
Aaron Pedersen, you play the detective. How hard was the role for you, or how easy was the role for you?
Oh, look, it was a role of a lifetime, you know. Just to get your teeth into it and tell a great story and, you know, evoke emotion across different parameters of Australian society. You know, for me, it was something Ivan wrote for me, so I was obviously in his mind in the writing process. And when I read it, I was very familiar with the character. It never felt like I was playing a stranger. I felt like I was playing somebody that I understood and felt like I was, you know, living in a world that I'm very familiar with. So, you know, for that, you got to call it a role of a lifetime.
And Aaron, at the launch in Melbourne, you mentioned something that goes along the line that you said it was a turning point in Australian cinema.
I think it is. It's a great film. It's a simple process of filmmaking. I mean, Ivan's, you know, brought all his talents to the fore. He plays a lot of roles in this. He wrote it, he directed it, he composed it, he edited it, you know. He's cast it, he's producing it, you know, he owns it. And the great thing about it is this filmmaker who's bringing out a great piece of storytelling for the wider Australian audiences. I think we've lost our way in a little ways in some parts of the industry. Our stories are a little bit mundane and you know, they're not inclusive of Aboriginal people. So for me, this is a great Australian film. It's got Indigenous and non-Indigenous people in it. It's got a lot of great Australian actors in it. And look, I've not done a lot of film in my time, but I don't rush out to films. I like a film to, you know, drag me off the couch and make me go out and enjoy it. And there haven't been a lot around lately. I think that this is one of them, you know, not just because I'm in it, but I love the fact that Ivan's he's thought about this in a lot of ways. You know, it's just the Indigenous side, the mainstream side, and with it comes a great story. It's very simple. It's a very simple story. It's simple storytelling on a grand level. You know, it's got a universal feel to it. You know, he's not signposting. He's allowed the audience to have some emotional participation in it and go away. And, you know, it sits with them for days after. So, I mean, that for me is a sign of a great film.
And Ivan, did you choose that specific location in Queensland?
Yeah, we chose the location together pretty much. I had Aaron and I went driving around in central Queensland and came across Winton. And what struck us was the beauty of the place, but also the brutality of the place. It's a very dry, hostile kind of land, but especially around the sunsets and, you know, dawn and sundown, it's just such a beautiful place as well. So that was a perfect setting to have a murder mystery setting there.
Was it very hot? Because at times during the film, I noticed it was grey, cloudy, but towards the end, we saw the blue skies.
Yeah, it was winter. I mean, Ivan chose it for that specific reason. You know, we're going to go out there and torture ourselves, you know, and make the shoot a lot harder than what it could be. No, he chose it. And look, we had some cloud and rain issues, but in a way, that kind of determined some other facets of the film that needed to be worked out. And that was, we choreographed, you know, that big scene at the end. We were able to spend 3 days doing that with the stunties and that had been flown in and the other actors to do that, because we were pretty much shooting it when they flew in. And that stalled us a little bit, but it allows us a chance to, you know, work out the dance, the choreograph for the shootout, and also just Ivan looking at it from a different angle. So, yeah, look, the rain was a blessing in a way, but a nightmare in some cases too. But we got there, you know. We're here today and are sharing it with the world.
And Ivan, you have chosen a great cast to support Aaron in this film. How did you go about it?
I wrote this film for Aaron Pedersen, totally in mind, and I also wrote a lot of the other smaller roles for specific actors as well, like people like, you know, we all know the very tall Bruce Spence and people like Roy Billing. I had those... Tasma Walton, yeah, actually had all these people in mind very early on, but, you know, and the people like Jack Thompson, Ryan Quanten, Hugo Weaving, you know, those guys came on towards the end of our casting process, and they really believed in the script. They really believed in Aaron and I and really wanted to support us. So, it was the hardest thing was just the scheduling, because we had to get them out there for a very short time, and they're very busy people. So, you know, and Aaron also had a lot of input on the casting as well.
What is your message to the French-speaking audience out there, to the Francophiles listening to us and the wider audience, to go and see that film?
Look, there's something great and unique about it, and that is that Ivan has taken a simple approach to it. He wrote a really simple script. It's a simple story. And, you know, it's a simple process of filmmaking. I mean, he really didn't over-glorify anything. It's actually, it takes you back to how films were made when they originally came out. That's the way it feels to me. It's not like, and it's a great walkthrough. It's really strongly character-based, which I think's, you know, an essential element of any film. Not just, you know, have a great story, but have great characters that allow the human experience to transfer from the screen to yourself and evoke emotion, you know. And he also didn't choose a lot of sound in it. There's no sound in it, really.
It's like a Western.
It is. I mean, the soundtrack is the dialogue and the elements, the breathing, the walking, the wind, you know, the dogs, everything, the background stuff. And he's just... You know, he's chosen a beautiful way to make a film. It's simple, you know, and that's what I really like about it. Come and see a really simple but very complex, complex, you know, film. It's got...
With political undercurrents.
Yeah, political undercurrents, but human undercurrents. You know, that's what I want to keep saying. It's a human story. And the eyes that you look into of the character of Jay are the same eyes of the people that are watching it. It's the same soul in a lot of ways. We're human. You know, we're cut from the same mould, you know. I mean, there's nothing really different about it. You know, I've always truly believed in this country. There's one country, it's called Earth, and there's one race, and it's called the human race, you know. And that's a really simple approach to it. So we made this for an international audience, and we love all the French audiences to come along and bring their family and friends and just come and sit around our cinematic campfire.
Thank you very much, gentlemen, for coming on the French language programme at SBS Radio.
Thank you very much.
Thank you.
Merci.
Merci.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
J'évite de bouffre, hey, ça vient dans les soubres, hey, pas de son poil et de bois, hey, je parle pas la langue de bois, hey, c'est Rouskova, hey, c'est Négal au Tamba, hey, ton style est trop bof, hey, moi Hamdoullah ça va. Hey.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur ce morceau de Save You qui s'intitule Molotov 4. Nous, on se retrouve jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, nous écouter en différé en vous abonnant à notre chaîne de podcast SBS French sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio. Passez toutes et tous une excellente après-midi et à très bientôt.
T'as trouvé ton robe, faut que je te dise, est-ce que t'es mon fils? Je me tape jamais la fiche, ma tête est mise en prière, je m'en fiche. Le rap français sur moi a mis une fiche. Vas-y, créé Molotov 4, G8, c'est le Zine, travaille à PK.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.